Bienvenue. Tu m'entends, en plus c'est horrible, t'as des écouteurs, donc tu m'entends vraiment. Bienvenue dans Il faut qu'on parle, parce qu'il faut vraiment qu'on parle, parce que ça va pas du tout. C'est nettement pire de faire ça face à face. Bienvenue dans Pour en dire du bien, pour en dire du mal, la série d'épisodes bonus où on parle des séries de la rentrée, pour en dire du bien et puis parfois pour en dire beaucoup de mal. Je suis accompagnée par mon copilote préféré, Dominique. Bienvenue Dominique.
Bonjour.
Et nous allons donc parler des 4 séries dont on vous a promis de parler. Ça commence tout de suite. Bon, maintenant qu'on est là, toi et moi, et qu'on va parler des séries, on va commencer par les séries qui fâchent, c'est plus rigolo. Alors Dominique, Scream Queens, toujours fan?
C'est un plaisir chaque épisode renouvelé. Non, mais comme je disais dans le podcast précédent, l'avantage avec du hate watching sur Scream Queens, c'est contrairement à un show qui a rien à dire, il y a au moins des choses à dire dessus. C'est pas inintéressant. C'est pas mauvais. Enfin, je trouve pas ça mauvais parce que c'est inintéressant. Plus j'avance dans la série, plus j'arrive à comprendre le ton et à me faire un petit peu à l'univers proposé par Ryan Murphy. Mm-hmm. Mais malgré tout, ça n'enlève pas le problème majeur de cette série-là, c'est que globalement, je me fous royalement de ce qui leur arrive à tous.
Je suis restée donc sur mes premières impressions,
ouais,
qui sont que d'habitude je déteste, et là, je me suis éclatée. Il y a plein de choses qui m'ont fait rire dès le premier épisode, qui m'ont donné du coup l'opportunité de vraiment prendre ça comme une farce.
Ouais.
Ce qui aurait pu être, enfin, ce qui était difficile, quand je me rappelle, Glee, qui est la série. En fait, non, Nip Tuck aussi. La première saison de Nip Tuck, j'ai vraiment adoré parce que ouais, je trouvais ça très, très, très touchant sentimentalement,
tout à fait,
émotionnellement. Et puis, alors, par la saison, j'ai fait what? Glee, le pilote de Glee, c'était un moment. Enfin, voilà, les gens qui me connaissent dans la vie savent que je suis un peu la moitié de ma personnalité, c'est Rachel Berry. Donc, je chante beaucoup. Voilà, bon, je rentrerai pas dans les autres détails de tout ce que j'ai en commun avec Rachel, mais un certain nombre de choses. Je me suis dit, c'est la série que j'ai attendue toute ma vie, quoi. Et ils vont vraiment chanter, ils vont vraiment faire de la musique tout le temps, et ça va être génial. Et donc,
t'as été un peu déçue du coup.
Bah, j'attendais une intégrité émotionnelle qu'il n'y a pas eu. Là, vu que mon approche est radicalement différente. Enfin, moi, toute la conversation avec son mec golfeur là sur le sur non mais tu comprends, si t'étais une loseuse et que du coup en sortant avec toi je te donnais une belle réputation et du coup tu devenais populaire, oh, devrait y avoir un film là-dessus, on devrait trop faire un film là-dessus. Et là son pote qui dit, et tu sais qui est-ce qui devrait réaliser ce film, le meilleur réalisateur du monde, Michael Bay. Pour le coup, t'as pas de doute qu'ils sont en train de rigoler, et en même temps, je pense qu'il y a des gens qui ont des vraies conversations comme ça, et donc ça m'a fait vraiment rire. Et là, je me suis dit, ok, je pense que je capte l'esprit de la série.
Ouais, je comprends tout à fait, et moi aussi, il y a certaines choses qui me font rire. En effet, le personnage du golfeur est tellement over the top, de toute façon, tu peux pas le prendre pour un être
humain. Il garde de son pote.
Bah oui, c'est un peu.
Ça, j'adore le truc, c'est You gonna touch my wiener?
Ouais, mais du coup, moi, ce qui me gêne, bon, alors, dans la carrière de Ryan Murphy, il y a eu. Moi, c'est pareil, la première saison de Nip Tuck, j'ai vraiment beaucoup accroché. J'ai même apprécié la deuxième. Pour moi, quand ça a commencé à complètement merder sur la saison 3, dès la première séquence, en fait, qui est si les gens se souviennent bien, s'ils l'ont vu, attention, spoiler, mais bon, ça commence à dater, donc ça va. À la fin de la saison 2, il y a un tueur en série qui s'appelle The Carver, qui sévit et qui se retrouve dans la chambre de McNamara, et il l'a paralysé, et donc d'après le modus operandi de du Carver, il va mourir ou être défiguré. On démarre la saison 3, comment il s'appelle l'autre déjà, McNamara and
l'autre.
Et devant
le mec de Unforgettable,
voilà, que j'ai oublié. Et devant la tombe de McNamara, et il commence à faire son eulogy, et McNamara se réveille et il est pas défiguré et il est toujours en vie, et il n'y a pas de problème.
Oh, je te trouve dur. Enfin, je veux dire, il y a tellement de choses qui me déplacent chez Murphy, mais je te trouve dur parce que ça, pour le coup, ça, c'est un péché tellement commun.
Mais c'est un péché. Le problème, il y aurait eu que ça dans la saison de Gênant, ça ne m'aurait pas gêné. C'est juste c'est un point de départ du ouais, c'est un peu facile. Et après, ouh, ça, c'est très facile et c'est pas bon. Ouh, ça, c'est vraiment très, très facile et c'est vraiment mauvais. Et ça allait, c'est allé de pire en pire. Et Nip Tuck, je lui ai donné jusqu'à la saison 5. Vraiment, j'ai vraiment voulu que ça devienne. Et j'ai arrêté au moment où JR voulait se faire implanter des nouvelles testicules un peu plus grosses. Ouais.
JR, c'est le gamin ?
Non, JR, c'est l'acteur qui jouait JR, arrive dans la série et qui veut se faire greffer des testicules parce qu'il a plus ses testicules suite à un cancer. Et il veut remettre ses testicules parce que comme ça, ça fait de lui un homme. Et j'ai arrêté à cette saison-là parce que c'était juste insupportable.
En fait, c'est rigolo, moi j'étais fan de Kimber.
Ouais, au début, le personnage était vraiment intéressant.
Non, mais dans la saison 3, il était intéressant. Quand ils étaient vraiment ensemble, en fait, avec Namak, Namera, justement, après qu'il ait été traumatisé par le Carver, il commence à avoir une vraie relation. Et il y avait quelque chose de vraiment touchant au fait qu'il se rendait compte qu'en fait, cette nana qu'il avait. Enfin,
traité comme de la viande.
Pas une hip-tuck pendant des heures, mais non, tout ça pour dire qu'il y a ce côté. Là, je suis tellement pas en attente de la même chose.
Totalement, je suis d'accord.
Ce qui veut pas dire, parce que moi j'ai essayé de regarder la troisième saison d'American Horror Story dans le même esprit, j'ai pas réussi à tenir, ça m'a
gonflé. En fait, j'ai l'impression que Ryan Murphy.
Queen, c'est pas exactement le bon truc, tu vois,
le bon dosage.
Tu vois, c'est du network, mais du network qui veut être edgy, et du coup, c'est exactement le bon lieu pour.
Le problème que j'ai avec ça, et c'est peut-être juste un problème que moi j'ai personnellement avec le travail de Ryan Murphy, et pas forcément une analyse qualitatif sur l'œuvre, c'est que progressivement j'ai l'impression que Ryan Murphy se détache complètement de ce qui est émotionnel.
Je pense qu'il n'a jamais été attaché.
Il y avait des choses comme
ça
dans ses œuvres précédentes.
Des toutes premières saisons et après ça disparaît. Donc ça prouve bien que ça n'a jamais été son propos.
Et là, en fait, ça commence tout de suite pied au plancher. T'as aucune émotion pour.
Elles existent. Justement, je trouve qu'elles existent plus au final.
Que dans American Horror Story.
Voilà, parce que tu te rends compte que la bitch n'est pas qu'une bitch.
Ouais, bien sûr.
Et que du coup, ça lui donne plus de dimension que si c'était le contraire.
Ouais, mais j'ai tendance à trouver ça un peu factice. Je reconnais que c'est brillant. Je remets pas en cause la brillance du mec.
C'est
vraiment bien écrit par moments. C'est vraiment bien écrit. Les situations sont bien écrites. La série en elle-même, c'est un autre problème. Mais on sent l'intelligence du gars, c'est pas un tâcheron Après, voilà, c'est ce qu'il a à mettre en avant, cette absence d'émotion dans les personnages, dans les relations. Et des fois, t'as deux personnages dans Scream Queens, t'as deux personnages qui affichent vaguement des émotions, c'est-à-dire t'as la fille qui vient de rentrer au Kappa, qui est un peu la jeune que tu suis dès le départ, qui est un personnage, on va dire, normal, humain, et un personnage qui a une sorte de prétendant masculin qui est aussi vaguement humain normal, mais tous les autres c'est pas des êtres humains quoi.
Oui, mais en même temps je pense que c'est ça, c'est vraiment, en fait j'ai une mascarade, mais ça c'est un carnaval.
Ouais.
Tu vois ce que je veux dire, ça a la même fonction que le carnaval.
Ouais, mais du coup ça me touche pas.
C'est de la carte catharsis.
Le truc c'est que ce que j'attends de Scream Queens, c'est quand même un ratio peur humour un peu équivalent. Or, j'ai jamais peur dans Scream Queens.
En fait, mais une fois de plus, je pense que ça non plus, c'est pas censé faire peur.
C'est sur la Fox. C'est dommage.
C'est censé. Ouais, c'est l'épouvante. Vrai. L'épouvante burlesque.
Ouais, enfin, c'est une accumulation de clichés, quoi.
Voilà,
enfin,
mais c'est ça. Oui, mais je pense que c'est exactement ce que ça veut être.
Ouais, mais tu vois, c'est ça.
Ça essaye pas d'être supernatural, ça essaye pas d'être. Ouais. Ça essaye d'être une mascarade. Et je pense que si tu le regardes comme ça, enfin, moi qui le regarde comme ça, qui ai vu que 3 épisodes, je pense que pour l'instant, en fait, ça répond assez, beaucoup plus que ces autres séries. Mm-hmm. Pour moi, répond à ce que j'en attends. Maintenant, si t'attends autre chose, une bonne série devrait te donner encore plus.
Voilà, et puis j'attends quelque chose certainement que lui, enfin clairement que lui ne veut pas mettre. Donc, je me fais des illusions quand je regarde. Mais il y a quand même de l'intérêt, à regarder. Peut-être pas. Hein, peut-être que là, je perds vaguement mon temps.
Mais
il y a quand même de l'intérêt dans pas mal de séquences dans Scream Queens, et il y a des moments où ça fait preuve de finesse dans la description du rapport à la fiction, du rapport à la jeunesse. Donc c'est pas inintéressant. Maintenant, voilà, le problème, c'est que c'est absolument pas porté par des personnages qui me donnent envie de les suivre, quoi, tout simplement. C'est un peu problématique quand même.
Mais c'est vrai que
l'encaisserai plus facilement sur un film. Voilà.
Mais le but d'en parler ensemble, c'est aussi que quand on, enfin, tu vois, là, on est encore au tout début parce que la dernière fois, on n'a pas vraiment le temps d'entrer dans le sujet. Mais la prochaine fois, à partir de la prochaine fois, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est qu'on puisse parler très précisément ce qui se passe dans un épisode et d'en rire. Ou d'en pleurer, ouais. Mais de, tu vois, de voir, en fait, que c'est une chose d'avoir un avis général sur la série et de dire c'est comme ci, c'est comme ça, mais il y a quelque chose de complètement différent dans l'approche spécifique et concrète d'un épisode, d'une histoire, d'une scène. Mmh. Et je pense que par rapport à Scream Queen, c'est vraiment intéressant à regarder. Même quand c'est pour dire, mon Dieu, qu'est-ce que je déteste cette série, j'arrive pas à croire qu'ils aient fait ça, ou le contraire, qu'est-ce que c'était jubilatoire quand ils ont fait ci ou ça. Et donc, j'aimerais, enfin, je pense que plus on sera concret dans nos discussions, plus on se rendra compte de ce qu'il y a ou pas à l'intérieur de Scream Queens. On sait que c'est un truc vide,
ouais.
Mais est-ce que c'est un truc vide avec des bonbons à l'intérieur, ou est-ce que c'est un truc vide où les bonbons ils ont disparu?
C'est un peu une piñata, c'est pour ça qu'on va continuer à les taper dessus.
C'est exactement ça. Bon, mais pour continuer à taper, moi je dois taper sur mon truc à moi, enfin taper, pas du tout d'ailleurs, parce que pour l'instant il n'y a pas grand chose à en dire. Sur Grandfathered, la merveilleuse sitcom avec John Stamos.
Et Paget Brewster.
Et Paget Brewster surtout. Alors moi en fait, j'ai vu 4 épisodes, toi t'en es à 3.
J'en suis à 3, c'est ça, ouais.
Bah écoute, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à dire, à part que Paget Brewster s'en sort toujours bien.
Elle a un timing, mais c'est juste incroyable, quoi. Ce sens comique naturel chez elle, c'est juste...
Je trouve ça beaucoup mieux que dans Another Period, où elle joue tellement un truc... En fait, je la préfère quand elle joue un personnage réaliste. Et c'est vrai que Another Period, j'ai trouvé du coup moins drôle, parce que c'était beaucoup plus trop forcé, beaucoup plus forcé.
Ouais.
Et ça lui passait moins. Après, moi, j'aime bien cette idée de montrer que c'est compliqué... Enfin, qu'il y a quand même une volonté. Enfin, que, quelque part, ils prennent vraiment leur sujet au sérieux, en fait.
Oui, complètement. Il y a une vraie sincérité dans le propos et c'est assez touchant. Et je trouve que. Comment il s'appelle
Stamos.
Stamos sert vachement bien son personnage, en fait. Il est vraiment bon et on n'a pas l'impression qu'il cachetonne pour faire une série comme ça, pour faire une sitcom. Non, il a l'air vraiment investi dans son truc et. En fait, tu peux pas remettre en cause la sincérité de la série. Mmh. Tu peux remettre en cause beaucoup de choses. Son intérêt global, sa drôlerie.
Mais en plus, il y a plein de sujets qui. Mais c'est pas très drôle, mais il y a plein de sujets qui m'intéressent. J'aime bien cette idée du fils qui a eu un enfant. Enfin, c'est rigolo cette idée du one night stand.
Ouais.
Où en gros, c'était sa collègue qu'il aimait bien. Ils ont couché un soir ensemble. Elle est tombée enceinte. Ils ont décidé de garder le bébé, mais ils sont pas ensemble.
Ouais.
Mais lui, en fait, il voudrait.
Ouais.
Puis il y a aussi un côté, le côté féministe, le gamin qui a été vraiment élevé par une féministe et qui, du coup, des réflexes de féministe. Je trouve ça tellement génial. Je sais plus si dans le 3 ou dans le 4, à un moment, il dit un truc genre, quelqu'un dit truc sur les féministes et il répond genre, nous, enfin, il semble, je sais plus si c'est sur les féministes ou sur autre chose, mais qu'est-ce que c'était drôle.
Dans le 3, c'est sur les comédies romantiques et qu'en gros, Paget Brewster se rend compte en fait, putain, j'ai élevé une femme en fait.
Mais non, et puis il y a aussi ce côté où il pose la question à Stamos, mais enfin, il lui pose la question de est-ce que effectivement tu as dit que la femme de ta vie c'était elle, j'ai vu une photo, donc est-ce que c'était ma mère la femme de ta vie, quoi.
Et c'est bien d'ailleurs qu'il confronte ce truc qui est un peu le cliffhanger du premier épisode,
pilote,
en fait il le confronte très très tôt et je trouve
et
ça
c'est logique par rapport au personnage
c'est
du
logique.
Fils, qu'il ait envie d'en parler avec
mais
son
tu
père,
vois pas. Tellement enfin on en parle assez souvent ensemble mais tu vois tellement justement ces séries où les gens ne parle pas et du coup ça intervient bien plus tard et te dis et en fait ils vont garder ça pour la fin de la première saison ou non de le deuxième ou le troisième épisode ils en parlent quoi,
et il en parle vachement bien d'ailleurs parce qu'il dit c'est compliqué oui c'est ce que je dirais et en même temps je sais pas j'étais pas prêt, j'étais con, je faisais plein de choses et c'est à nouveau en fait c'est encore plus le sujet de l'épisode 4 c'est encore plus le sujet de l'épisode 4 parce que l'épisode 4 s'appelle tout simplement Deadbeat.
D'accord.
Et qu'il y a la question de, en gros, pourquoi elle a choisi. En fait, en gros, il apprend que le frère de Paget Brewster pense qu'il l'a abandonnée enceinte depuis le début.
D'accord.
En gros, elle a justifié le fait d'élever son gamin tout seul auprès de sa famille en disant qu'elle n'avait pas eu le choix parce que le mec s'était barré.
D'accord.
Et lui, là, mais j'étais pas au courant. Et du coup, il y a toute la question, si j'avais été au courant, qu'est-ce que j'aurais fait?
Ouais.
Et c'est vachement touchant, et c'est vachement touchant parce qu'en plus tu sens que malgré tout il y a aussi ce côté que moi je trouve c'est rigolo parce que c'est un truc que je trouve les gens se plaignent souvent dans les comédies romantiques du fait que dans les séries surtout du fait que tu as par exemple Ross et Rachel, tu vois, que ce soit toujours Ross et Rachel. Et moi je dis bah en fait plus je vieillis plus je découvre que dans la vie c'est vachement comme ça aussi en fait. Le nombre d'histoires qui traînent maintenant de gens qui à 50 60 ans retrouvent sur Facebook leur premier petit ami, en fait c'est avec eux qu'ils sont. Et je trouve ça incroyable à quel point en fait on ne peut jamais se débarrasser des gens qu'on aime, contrairement à ce qu'on croit, et que du coup ben en fait quelque part lui il a vécu sa vie dont il a rêvé, et elle a décidé de faire sa vie mieux sans lui, sauf que bah au final 30 ans plus tard ils sont où? Bah en fait l'un en face de l'autre, et finalement ils ont pas vécu mieux quoi, donc il y a quelque chose d'assez touchant sur le fait que clairement, et puis surtout on sent ils s'entendent très facilement tout de suite beaucoup mieux l'un avec l'autre qu'avec qui que ce soit d'autre, donc il y a quelque chose puisque j'ai adoré dans le pilote c'est le côté avec son assistante ou enfin son associé, il fait is he sleeping with you, est-ce qu'il couche avec toi, et elle dit non je suis lesbienne, elle fait ah c'est un bon choix, elle fait non c'est une obligation professionnelle, enfin, en gros, c'était un prerequisite, donc c'était une demande de base. C'est vrai que c'est une bonne idée quand t'es coureur d'avoir une associée lesbienne. Je pense que c'est le meilleur moyen. Mais il y avait, c'est vraiment, pour l'instant, ça va pas loin.
Non, ça va pas loin, mais c'est en fait, ce qui est bien, c'est que c'est assez fin en fait. Ouais. C'est plus fin que drôle.
Je sais pas si c'est vraiment fin.
Sur certains sujets.
Disons que c'est émotionnellement juste.
Ouais.
Fin, ouais. Je dirais pas.
Non, il y a des situations qui sont complètement grotesques. Mais sur ces sujets-là, c'est bête à dire, mais j'ai l'impression que c'est les sujets qui tiennent vraiment à cœur aux auteurs. Là, ils sont justes et ils sont fins. Sur les trucs un peu plus cas de la semaine, là, par contre, c'est vraiment.
Moi, j'ai bien aimé le coup du drone, hein, de la grande explosion de déclaration d'amour et la nana qui fait. Hein? Qu'est-ce que vous foutez là? Genre, ah oh merde, tu sais.
J'ai trouvé ça un peu gros.
Mais non, c'était génial quoi. Parce que le truc, c'est que Stamos est là, mon dieu, il va se ridiculiser avec son truc. Et en fait, il fait ah non, en fait, c'est vachement impressionnant. Et sauf que, ah mais elle l'a pas vu. Bon, bah dommage, on va rentrer chez nous. Mais en fait, mais par contre, c'est clair que j'ai menti en disant que c'était ma série, que j'aimais le moins quoi. Enfin, c'était une grosse triche quoi. Parce que quand je pense à toutes les autres merdes que j'ai déjà arrêté de regarder.
Ouais, mais il y a des trucs, il y a rien à dire. Qu'est-ce que tu veux?
J'ai essayé de regarder l'épisode 2 et j'étais là. Je m'ennuie tellement.
Non, mais on pourrait faire un listing des séries dont on aurait pu parler dans les plus mauvaises. Moi, j'aurais pu mettre. Rosewood, t'aurais pu mettre Dr. Ken, mais qu'est-ce qu'on va dire sur ces séries-là
Je vais quand même dire ce qu'on n'avait pas dit la dernière fois sur Dr. Ken. C'est-à-dire que Dr. Ken se démarque pas par sa nullité, elle se démarque par sa. Comment dire? C'est même pas de la médiocrité, c'est son manque d'intérêt absolu.
Ah oui, non,
c'est qu'ils
rien.
Ont vendu ça comme une série avec cet acteur, et en fait c'est le plus gros cliché de la série familiale des années 80 qu'on ait vu depuis longtemps.
C'est ça, et le truc c'est qu'il y aurait un niveau supplémentaire, ça pourrait être génial, ça voudrait dire qu'il traiterait ça vraiment comme
génial.
Méta. Oui, génial. Attention. S'ils étaient méta là-dessus et qu'ils jouaient vachement sur le méta, ça pourrait fonctionner.
Ça serait dans le devenir à l'épisode
5. Peut-être. Mais là, c'est tellement premier degré.
Tenez-nous au courant si Dr. Ken devient brillant.
Tenez-nous au courant parce qu'on ne va pas le voir.
Attends, mais Cougar Town ?
Ouais.
C'est exactement devenu ça.
Tu te dis, non, il y a un moment, il va y avoir une distance de mise et tu vas comprendre qu'en fait, tout est méta et que c'est. Ah non! C'est du premier degré.
Ça n'a aucun intérêt.
Ça n'a strictement aucun intérêt. Et
à part
ça avait
c'est
déjà...
bien d'avoir une famille asiatique à la télévision, parce que.
Eh ouais, mais putain, est-ce qu'il fallait vraiment une famille asiatique comme ça, quoi?
Bah oui, parce qu'il y en a blindes et blanches qui sont chiantes, donc pourquoi pas
une asiatique
diversité
chiante. Ouais,
aussi.
Je suis d'accord.
Comme
Rosewood, pourquoi pas un enquêteur chiant.
La problématique de la représentation, c'est c'est pour tout. regardez Fresh Off the Boat, c'est nettement mieux, parce que le gamin principal est insupportable, la mère est géniale.
Il paraît que c'est bien.
Les parents sont vachement bien, et les petits frères aussi. Parlons des trucs qu'on aime. Alors, je vais là te faire un énorme reproche. Dans notre dernière conversation, je n'avais vu qu'un seul épisode de The Grindr, tu en avais vu 3 et tu n'as à aucun moment précisé que Nathalie Morales était dans cette série.
Alors, la gardais pour moi.
Je rappelle à nos auditeurs qui ne sauraient pas qui est Nathalie Morales, elle a fait des petits rôles dans plein de séries. Alors je ne sais pas si elle est chiante et du coup ils la virent, ou si juste ils ne réalisent pas le potentiel merveilleux de cette actrice. Moi je l'ai découvert dans
The Middleman. Moi j'opte pour la deuxième. Hein.
Donc The Middleman, qui était sur ABC Family, pour des raisons mystérieuses, qui est une espèce d'une série ovni absolument géniale. Je vous mettrai un trailer sur le post. Et franchement, mais faites-vous plaisir, il y a 13 épisodes et il y a un comics qui raconte la fin. Mais regardez, non, ça, c'est formidable. C'est merveilleux.
Et créée et écrite majoritairement par Ravi Grillo-Marxwatch, dont on reparlera.
Je voulais que tu dises son nom. Je suis très heureuse que tu
l'aies dit. Je l'ai forcément mal dit, mais je crois qu'il n'y a pas...
Javier, c'est Javier,
Grillo,
c'est ça
Grillo. Marswap.
C'est toi qui dis. Et donc j'ai découvert The Middleman. Elle a un peu passé du temps dans White Collar. Elle est la chérie de Aziz Ansari dans Parks and Recreation.
Preuve qu'elle est pas chiante parce qu'elle est venue une fois dans la série et puis elle est revenue plusieurs années plus tard. C'est qu'elle est pas si chiante que ça, je pense.
Et elle est merveilleuse dans The Grinder.
Complètement.
Quand je l'ai vue dans l'épisode 2,
elle est
genre,
tellement parfaite.
Objection. Objection to what? Based on moi. Et là, j'étais là, je l'adore. Donc voilà, donc Nathalie Morales, for the win, comme je l'ai très joliment
Alors,
tweeté.
Nathalie Morales a un gros problème. C'est qu'en fait, il y a une présentatrice d'info de CNN qui s'appelle Nathalie Morales avec exactement
la même orthographe.
Donc c'est peut-être ce qui lui pose problème dans sa carrière. Mais en tout cas, ça lui pose des problèmes sur Twitter parce qu'elle doit constamment avoir des questions qui sont adressées à cette Nathalie Morales-là sur des sujets donc de politique. Elle est constamment obligée de dire « Je ne suis pas cette Nathalie Morales ».
Oh mon Dieu, la pauvre. Donc, allez, moi, j'adore. Enfin, je me rappelle la première fois, le Middleman, vous allez voir dès le pilote, c'est génial.
Non, c'est formidable.
Et elle a un timing. Et dans The Grinder, elle est parfaite. Elle est vraiment parfaite.
Si en plus, il y a des fans de Doctor Who qui nous écoutent, The Middleman a des liens avec Doctor Who, déjà au niveau de l'esthétique un petit peu désuète des monstres et la façon d'aborder la science-fiction. Mais c'est quelque chose que Ravi aime beaucoup, Doctor Who. Et il a même écrit lui-même une fanfiction qui met en scène The Middleman et Doctor Who. Ouais. C'est lui-même qui l'a écrit, quoi.
Mais il a bossé sur Helix, dans le genre de série qu'on n'aime pas.
Saison 1.
Mais il a bossé sur quoi ? Il a bossé des milliards d'autres trucs.
Il a bossé sur Lost, saison 1. Il a bossé sur. Enfin, il a bossé sur tellement de trucs et beaucoup de choses vraiment. Il a bossé sur Medium aussi, assez longtemps.
Burke.
Ouais, non, mais. Il a bossé sur Boomtown.
Mon sceptique ne supportait pas de.
Il a bossé sur Boomtown.
En tout cas, Nathalie Morales. On est d'accord, c'est la MVP de The Grinder, non ?
Dans les personnages réels, humains, oui. Parce que sinon, ce que fait Roblo, c'est quand même assez formidable. Mais c'est pas un être humain. C'est une parodie.
Mais non, mais voilà, donc ça reste très drôle. Toi, t'en as vu 4 ?
J'en ai vu 4, oui. Et globalement, je suis toujours très content de la série. Il y a un ton vraiment.
La prochaine fois, on sera à jour, premier. On parlera du dernier épisode en date. Mais là, vu que j'en ai vu 3, je peux juste dire Nathalie Morales for the win. Ouais. Et donc, on va voir exactement le problème pour la dernière série qui est Crazy Ex-Girlfriend.
Même plus donc, qu'un problème parce que j'ai vu que le premier épisode.
Mais moi j'en ai vu que 2. Voilà. Y en a un peu plus. Alors du coup, je dirais juste, il faut que je te fasse écouter, enfin regarder, mais pour nous dire écouter le générique de Crazy Ex-Girlfriend. Donc je vais me permettre.
Vas-y. I was working hard at a New York job making dough, but it made me blue. One day I was crying a lot, and so I decided to move to West Covina, California. Brand new pals and new career. It happens to be where Josh lives, but that's not why I'm here. She's the crazy ex-girlfriend. What? No, I'm not. She's the crazy ex-girlfriend. That's a sexist term. She's the crazy ex-girlfriend. Can you guys stop singing for just a second? She's so broken inside. The situation's a lot more nuanced than that. C-R-A-Z-Y. Okay, we get it. Crazy ex-girlfriend. C'est très très drôle.
Non, c'est mais voilà, et puis surtout c'est « That's a sexist term !» Et la tête qu'elle fait, juste la tête qu'elle fait à ce moment-là, genre « Non mais c'est bon !» Et ça, c'est un truc j'étais sûre que la série allait dans ce sens-là, et j'ai eu la confirmation avec ce générique, qui est qu'elle joue sur l'ambiguïté entre le fait que, oui, elle a un comportement crazy, mais elle veut pas l'avoir. Et donc elle le fait à moitié dans le déni et à moitié parce qu'elle ne sait pas quoi faire d'autre pour se sortir de la situation dans laquelle elle est. Et le deuxième épisode, qui s'appelle Josh's Girlfriend is Great ou un truc comme ça, est basé sur cet étrange phénomène qui se passe quand une femme essaye de ne pas détester la meuf du mec dont elle est amoureuse. Et il y a des espèces de transferts étranges qui se font. Et c'est tellement bien vu. Enfin, je veux dire, c'est clairement exagéré. Mais c'est pas si exagéré que ça. Parce que c'est que des comportements que j'ai fait. Justement, quand tu veux pas être la pauvre fille qui va détester une nana juste parce que le mec que tu voulais être avec elle, parce que c'est quand même c'est limite d'avoir ce genre de sensation, et en même temps tu peux pas t'en empêcher. Bah c'est quoi ton option? Bah non, je vais devenir copine avec elle, non en fait je l'adore, non en fait je trouve qu'elle est géniale, et là tu vois tout l'épisode, et quelque part c'est un peu vrai.
Ouais.
Parce que généralement d'expérience, quand t'es amoureuse de quelqu'un, ben t'as des trucs en commun, donc automatiquement la personne qui lui plaît, des fois aussi il y a des affinités quoi, et du coup ou alors il y a une fascination répulsion, c'est tout ce que l'autre que tu n'es pas, enfin, et je trouve que cet épisode l'adresse tellement bien, et puis du coup joue sur la question de c'est, on va pas se détester entre meufs, c'est ridicule, on n'en est plus là.
C'est quoi son prénom, c'est Bloom, c'est...
elle s'appelle Rachel Bloom.
Donc elle fait partie
elle
fait partie des créateurs.
Elle a créé... Oh, mais ça en dit tellement... Oh, c'est
mais
tellement
ça,
génial.
C'était clair.
Je ne savais pas.
Ça se sent trop.
Ça se sent trop.
Bah, je te jure.
mais en fait, t'as raison, ça se sent trop.
Donc du coup, elle doit être dans la writer's room, donc c'est vraiment un... Moi, je sais pas, quand je la vois, bon, déjà physiquement, elle a des points en commun avec, mais je pense à Tina Fey, je sais pas pourquoi, c'est...
Alors, franchement, je trouve que le seul truc qu'elle a en commun avec Tina Fey, c'est qu'elle est une self-aware, qu'elle a conscience d'elle et qu'elle c'est une femme intelligente, mais en même temps, elle ressemble du coup à 55 000 autres nanas que je connais dans ma vie.
Oui, bien sûr, des brunes.
Mais c'est juste que, j'imagine qu'en tant que meuf, j'ai juste plus accès à toutes ces femmes incroyables qui existent partout et que ça paraît tous des exceptions, mais...
Allez.
Non, parce que, enfin après, c'est pas Tina Fey. Moi, j'allais dire, je ne suis pas Tina Fey, je suis Liz Lemon, ce qui est nettement pire. Liz Lemon sans le boulot.
What's the point?
J'ai un ami critique un jour qui m'a dit oh, je viens de comprendre pourquoi t'adorais Sortie Rock. Je viens de voir l'épisode où elle se sépare de son mec et tous les moments bien dont elle se souvient avec lui, c'est des moments où ils bouffaient ensemble. Et ça fait penser à moi. Il fait bah oui. Et je n'étais pas d'accord. Et donc voilà. Et là, j'ai compris, mon Dieu, je suis Liz Lemon.
Non mais franchement j'avais pour le coup j'étais pas parti vraiment pour aimer cette série, parce que quand j'avais vu la bande annonce j'étais plus que circonspect, on va dire, et non, j'ai vraiment bien aimé le pilote quoi. J'ai trouvé ça drôle, j'ai trouvé ça mordant et en même temps assez touchant, et je trouve
c'est
qu'elle apporte
exactement la même taille que moi. Pardon,
moi j'allais parler de profondeur du personnage, mais parlons de taille de l'actrice, il n'y a pas de problème.
Pardon.
Est-ce que tu as sa pointure quelque part?
Je ne sais pas. Je pense que c'est bon. Vas-y, continue.
Non, mais du coup, il y a même des moments assez sombres en fait dans le premier épisode, quand elle est seule et qu'elle un peu contemple son existence. C'est pas forcément. Enfin, tu sens qu'elle est en dépression, en post-dépression.
Oh, c'est quand sa mère l'appelle, mais c'est trash en fait.
Et du coup, tu t'attends à une sorte de bonbon rose un peu qui fait mal aux dents quand tu le consommes, et en fait, pas du tout. C'est plus nuancé que ça.
Mais je pense que c'est vraiment juste que. Enfin, tu vois, moi, j'ai jamais eu de doute. Dès le pilote, je le voyais, ça.
Mais t'es quelqu'un qui a confiance dans les gens.
Non, pas du tout. j'en connais d'autres. Mais non, c'est juste que... En fait, il y avait des références à des choses très spécifiques qui m'ont tout de suite fait comprendre qu'on parlait le même langage, en fait. Dès la bande-annonce, il y avait le côté qu'elle disait « Non, mais c'est pas pour Josh que je déménage. Ça n'a aucun rapport. » Le fait même qu'elle le dise comme ça...
Ouais.
J'ai cette ambiguïté dont je parlais tout à l'heure, je la sentais déjà.
D'accord.
Mais bon, ça fait une demi-heure qu'on parle de série, on peut peut-être... merci d'avoir passé ce moment agréable avec nous. N'hésitez pas à commenter sur tout ce qu'on a dit et tout ce qu'on a oublié de vous dire. Dites-nous si vous regardez aussi les mêmes séries que nous, les quatre, qu'on aime et qu'on n'aime pas. Et on vous retrouve très très vite. This is an awesome feeling when you are so close. Pour en dire du bien, pour en dire du mal.
Parce que des fois,
Jonathan
on en dit du bien. Du mal.
On va faire un générique avec Jonathan. Avec l'amour du risque, non, tu penses pas?
Je ne sais pas. We feel the night is upon.